Voilà, donc aujourd'hui, nous allons continuer ce que j'ai commencé la semaine dernière, donc sur la description de ce que voit la sismologie à la base du manteau. Et en particulier, on va parler, au moins pendant une moitié du cours, de ces fameuses structures qu'on appelle les superpanaches, ou de ce nom vraiment barbare, LLSVP, mais qui a l'air d'avoir été adopté par la communauté. Alors, je vous rappelle, LLSVP, c'est un terme en anglais, Large Low Shear Velocity Provinces. Okay. Mais moi, j'utiliserais plutôt superpanache, c'est plus parlant. La raison pour laquelle les gens n'aiment pas superpanache, c'est que les géodynamiciens considèrent que des panaches, c'est des structures assez étroites. Or, les superpanaches, c'est énorme à la base du manteau, donc ça ne peut pas être la même dynamique que celle qu'on voit dans les modèles de convection où on voit ces panaches fins monter de la couche limite du bas quand on chauffe un liquide par le bas. Donc là, je vous rappelle simplement, on avait vu comment la structure varie avec la profondeur. Donc, ce sont des coupes issues de la tomographie globale en vitesse des ondes S, donc des ondes de cisaillement, à différentes profondeurs. On voit en haut de la Terre, donc ici à 100 km de profondeur, une très bonne correspondance avec ce à quoi on s'attend depuis la tectonique des plaques, avec les vitesses lentes le long des rides et aussi en arrière des zones de subduction, là où il y a de l'extension et du volcanisme. Et d'autre part, des vitesses lentes qu'on peut interpréter au premier ordre en termes de température chaude, plus chaude que la moyenne, et dans les régions des continents très stables, continents anciens, qu'on appelle les régions les plus anciennes, qu'on appelle les cratons, on voit des vitesses rapides qui sont liées au premier ordre à des températures plus froides, mais aussi sans doute à une composition différente. Quand on s'enfonce dans le manteau, on perd peu à peu cette relation avec la tectonique. Déjà à 300 km de profondeur, les régions océaniques sont encore lentes, mais on a perdu les rides et on a aussi perdu la relation avec les vieilles provinces de cratonique des continents. Quand on arrive ici dans la zone de transition, à 600 km, on voit apparaître des zones liées qu'on reconnaît être associées avec la subduction, donc des zones plus rapides, les plaques froides qui plongent, aussi bien dans l'ouest Pacifique qu'en Amérique du Sud. Et ensuite, à plus grande profondeur, on voit encore cette relation, mais seulement dans certaines régions, donc ici en Indonésie, Fidji, Tonga, et peut-être en Amérique du Sud également. Mais la structure devient plus difficile, elle est de plus courte longueur d'onde en moyenne, et on n'a pas jusqu'à présent, on ne fait pas de connexion très précise avec des objets qu'on connaît, à part ces zones de subduction. Par contre, quand on arrive à la base du manteau, on voit à niveau une structure de très grande longueur d'onde, avec ces deux superpanaches, donc de vitesse lente, donc a priori plus chaude que la moyenne, et avec un anneau de vitesse plus rapide tout autour. Donc j'avais déjà parlé de ça, c'est donc seulement un rappel, donc une structure très différente en haut du manteau et à sa base. Et associé avec ça, il y a aussi l'amplitude, l'amplitude des anomalies de vitesse qui est ici dessinée en profil, en fonction, donc c'est une amplitude RMS, donc la moyenne statistique en pourcent, qui montre qu'on a des hétérogènes latérales plus fortes en haut, donc dans les premiers 300-400 km du manteau, mais aussi à la base, et des hétérogènes relativement faibles dans le milieu du manteau. Ceci est en bon accord avec ce à quoi on peut s'attendre dans une perspective de couche limite. La couche limite donc de la lithosphère à la surface de la Terre, et puis la couche limite à la base du manteau, dont on va parler aujourd'hui en plus de détails. Donc la couche limite entre le manteau de silicate et solide et le noyau liquide de fer, principalement. Il y a aussi donc dans les longueurs d'onde, si on regarde un spectre de longueur d'onde qu'on exprime en termes d'harmonique sphérique, qui est la base de décomposition des structures sur la sphère, la base préférée. Donc les faibles degrés, donc ça c'est le degré angulaire de l'harmonique sphérique, les faibles degrés correspondent à des grandes longueurs d'onde et les plus hauts degrés à des courtes longueurs d'onde. Donc on voit aussi une structure, donc ça c'est trois différents modèles qui ont été construits par différents groupes avec des méthodes tomographiques qui se ressemblent mais qui sont quand même assez différentes avec des bases de données différentes, etc. Et on retrouve dans tous ces modèles une hétérogénéité d'assez large, enfin de composantes harmoniques assez variées mais relativement grandes longueurs d'onde en haut. Et ensuite, on a deux zones où les structures sont dominées par les très grandes longueurs d'onde. C'est ce qu'on voit bien visuellement à la base du manteau avec ces grandes structures de superpanache qui sont dominées par ce qu'on appelle le degré 2. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc ce degré 2, je vous l'avais montré, je pense aussi. Ici, on a extrait de la structure à la base du manteau, donc à 2800 km de profondeur. Ce n'est pas indiqué, mais c'était à 2800 km de profondeur. Ce degré 2, donc les très grandes longueurs d'onde, il est représenté ici. Donc ça, c'est l'axe de rotation de la Terre. Et on voit que quand on réduit ces structures à leur plus grande longueur d'onde, on voit très bien ces deux superpanaches apparaître comme des zones de vitesse plus faible que la moyenne. Et cet anneau de vitesse plus rapide qui, en fait, passe par l'axe de rotation de la Terre. Les points ici, ce sont les localisations du pôle de rotation de la Terre en fonction du temps, donc dans les derniers 250 millions d'années. Et encore une fois, c'est trois modèles différents qui donnent des résultats vraiment très bien contraints, ils sont pratiquement identiques. Cette correspondance de cet anneau de vitesse rapide avec la trajectoire du mouvement du pôle au cours du temps fait penser à une structure stable où ces superpanaches pourraient contrôler d'une certaine façon le mouvement du pôle pour essayer d'avoir une configuration de moment d'inertie optimale, d'énergie minimale. Alors, ça, c'est encore une autre image centrée sur le mégapanache, ou superpanache du Pacifique, mais maintenant montrant un petit peu comment il est, qu'on le voit aussi, pas seulement tout à fait à la base du manteau, mais qui remonte un peu vers la surface. Et de l'autre côté, on a celui d'Afrique. Alors ici, c'est une comparaison de différents modèles, donc encore une fois, différents groupes qui ont des données un peu différentes, des méthodes d'inversion un peu différentes, un peu le cadre théorique et la paramétrisation varie. Mais vous voyez que les grandes structures à la base du manteau, donc ici à 2800 km, sont vraiment bien définies dans tous ces modèles. Les uns ont des amplitudes un peu plus grandes que d'autres. Ici, c'est donc la variation relative en vitesse, en pourcent, par rapport à la moyenne à cette profondeur. Et donc, ils ont des amplitudes de plus ou moins 2 à 3% suivant les modèles. Ici, ce qu'on voit ici, ce n'est pas le résultat d'une inversion, c'est en fait des données brutes, un certain type de données d'onde de volume qui sont des temps de propagation différentiels entre l'onde S et l'onde SCS. Donc, l'onde SCS, c'est celle qui se réfléchit sur la limite noyau-manteau, et l'onde S, elle passe, je la montrerai plus tard, dans le manteau un peu au-dessus. Donc le temps différentiel entre ces deux ondes exprime la structure, les variations de structure tout à fait à la base du manteau. Et donc ici, ils ont été représentés en chaque point qui est le point milieu, donc le point de réflexion de l'onde SCS. Donc c'est une projection directe des données qui montre bien la même structure. Donc on est vraiment assuré que cette structure existe bien à la base du manteau. Les méthodes d'inversion incluent d'autres types de données et permettent d'avoir une meilleure résolution en profondeur de ces structures. Alors donc la comparaison des modèles nous donne une assez bonne cohérence avec des variations dans les détails, mais ceci peut être représenté de manière un peu synthétique par une carte comme celle-ci que nous avons faite récemment, ce qui est représenté ici, c'est qu'on a pris les cinq modèles différents, et en chaque point du globe, on a regardé si le modèle a une vitesse plus lente ou plus rapide que la moyenne. Si elle est plus lente que la moyenne, on ajoute un point. Si elle est plus rapide, on n'ajoute rien. Donc, si les cinq modèles sont d'accord pour des vitesses faibles, on aura une couleur forte rouge. Ici, on aura incrémenté de 5. Par contre, s'ils sont tous d'accord pour une structure plus rapide que la moyenne, des vitesses plus rapides que la moyenne, donc on aura du bleu profond. Et vous voyez, ce qui est remarquable, c'est que ces modèles, malgré leurs petites différences et donc certainement des variations latérales de plus faible longueur d'onde, sont en très bon accord pour délimiter donc deux types de structures à la base de Mandeau. Un type de structure qui est celle des superpanaches, donc plus lent que la moyenne, et le reste. Et ces zones sont tout à fait contiguës. Dans le Pacifique, il y a des modèles qui ne sont pas tout à fait en accord avec les autres. Donc ici, vous avez du jaune, parce que certains modèles pensent que ces régions sont connectées, certains autres non. Mais de manière générale, ils montrent la même distribution géographique, et même dans les détails des contours de ces superpanaches, qui, dans leur degré 2, sont bien sûr lisses, puisque c'est la plus grande longueur d'onde qu'on représente, mais dans plus de détails, ils ont des formes assez complexes, ces bords. Quand on regarde maintenant la moyenne des vitesses dans chacune de ces deux régions en fonction du modèle, on représente ici donc pour chacun des modèles, ici il n'y en a que 4, la région de vitesse rapide, ici à droite, donc plus rapide que la moyenne, qui augmente un tout petit peu en fonction de la profondeur, et pour la région lente, ici de l'autre côté. Et vous voyez, ce qui est frappant tout de suite, c'est qu'on a quand même aussi une différence notable entre le comportement des vitesses, du gradient des vitesses, donc des vitesses en fonction de la profondeur, dans les régions rapides et dans les régions lentes. En fait, j'en reparlerai tout à l'heure, mais dans les régions rapides, on est plus proche du modèle de référence PREM, ici, qui est le zéro, et pratiquement le gradient ne s'en écarte, donc les variations avec la profondeur de ces vitesses ne s'écartent du modèle de référence que de très peu. Par contre, dans les régions lentes, on a un gradient beaucoup plus fort. Alors, je parlerai plus tard des inconvénients de la tomographie qui a tendance à abaisser les amplitudes des variations latérales. Ce phénomène qu'on voit déjà bien avec la tomographie doit être en réalité encore plus fort et indique donc une nature assez différente donne l'impression, disons, suggère une nature différente des régions d'anomalies lentes et des régions d'anomalies rapides. Alors, avant de passer à autre chose, je voulais simplement noter qu'il y a une seule exception frappante à la contiguïté de la région rapide tout autour du globe, et c'est dans cette région ici, qui se trouve être près de la ville de Perm, où tous les modèles indiquent une anomalie d'assez large, parce que au moins à la résolution de ces modèles-là, ça doit avoir à peu près un peu plus de 1000 km ou même plus de diamètre, plus ou moins circulaire, et qui donc serait au milieu de cette région bleue. Il se trouve que cette anomalie est en fait localisée tout près, je n'ai pas la croix, tout près de l'endroit où les trappes sibériennes, donc ces épanchements volcaniques énormes, auraient été au moment de leur éruption. Avec le mouvement des plaques, bien sûr, les trappes sibériennes se trouvent actuellement, la province des trappes sibériennes se trouve plus à l'est, mais elle aurait été près de cette anomalie à l'époque où elles ont été en éruption. Alors nous avons essayé de modéliser cette structure pour bien montrer qu'elle est réelle. Là, c'est juste pour vous montrer un peu le genre de travail qu'on fait en modélisation de formes d'ondes sismiques actuellement. Donc, on a pris une représentation schématique, donc simplifiée, de cette anomalie, et on a trouvé un événement profond en Espagne, observé dans des stations au Japon et en Chine, des stations sismiques large bande. Et ceci, ce sont les trajets des zones diffractées sur le noyau, donc des zones qui se propagent longtemps sur la limite noyau-manteau du côté du manteau et qui vont donc être très sensibles à la structure à la base du manteau. Et quand vous regardez les formes d'ondes de ces ondes diffractées, S-diff c'est pour S diffracté, vous voyez que quand vous balayez avec un azimut, donc un angle par rapport au nord de direction de propagation de plus en plus grand, vous voyez apparaître une anomalie d'amplitude ici qu'on ne peut pas expliquer par la radiation à la source. Ça n'est pas dû au fait que l'amplitude due à la source serait plus grande dans cette direction-là. Ce n'est pas montré, mais c'est un fait. Et on voit une très grande anomalie d'amplitude ici. Ici, c'est les rapports d'amplitude avec le modèle PREM, qui est très grand dans cette région d'azimut. Et de même, il y a aussi une anomalie de temps de parcours qui devient plus lent ici. Donc c'est la différence des temps de parcours des ondes diffractées par rapport au modèle PREM qui devient beaucoup plus positive, donc beaucoup plus lente. Et donc en modélisant ceci, on trouve, ici on a rajouté quelques stations pour compléter, on ne les a pas en réalité, mais pour mieux voir l'effet, on arrive à modéliser très bien cet effet en mettant une structure à la base du manteau d'environ 700 km d'hauteur au-dessus, depuis la base du manteau jusque vers le haut, et environ 800 km de diamètre, avec une diminution de la vitesse des ondes S par rapport au PREM de l'ordre de 7%, ce qui est considérable, mais pas aussi important que d'autres structures qu'on voit à la base du manteau, dont j'en parlerai la semaine prochaine, qu'on appelle les ULVZ, encore un nom barbare, les Ultra Low Velocity Zones. Alors, je vais parler maintenant des caractéristiques sismiques de ces méga ou panaches qu'on voit sous le Pacifique et l'Afrique. Donc, on en a déjà une certaine idée avec les modèles tomographiques. Il y a un certain nombre de caractéristiques et je vais parler l'un à la suite de l'autre. Donc d'abord, la relation avec la structure du manteau supérieur, y en a-t-il une? Est-ce qu'ils correspondent à quelque chose qu'on verrait plus près de la surface? Le fait qu'ils ont des bords très nets, très abrupts, et un certain nombre d'autres propriétés. Donc commençons par la relation avec la structure du manteau supérieur. Il y a un certain nombre d'observations assez frappantes. Ceci est résumé ici, et donc... Dans les deux diapos suivantes. Ici, on peut se demander est-ce que ces structures ont quelque chose à voir avec les plaques plongeantes qui pourraient plonger jusqu'à la base du manteau pour s'y déposer, donc sous la forme d'un cimetière de plaques. On parle d'un cimetière de plaques. Donc vous voyez ici cet anneau de vitesse rapide qui se trouve être relativement en bonne position, enfin à l'aplomb des plaques plongeantes. Ici, c'est un modèle de plaque plongeante, un modèle assez simple qui avait été construit il y a une vingtaine d'années, où on a pris la position des zones de subduction actuelles, ce qu'on sait des zones de subduction dans les derniers quelques millions d'années, et on en a donc déduit la position que les plaques auraient pu avoir, en fait plus que ça, je pense que c'est au moins 50 millions d'années si ce n'est plus, et peut-être jusqu'à 100 millions d'années. Et ici, ce qui est représenté, c'est la structure intégrée de ce modèle de plaque, c'est-à-dire si on prenait toutes les profondeurs et on accumulait toutes ces plaques. Et vous voyez que ce modèle de plaque intégrée correspond pas mal à la position de cet anneau de vitesse rapide, mais il est un peu plus étroit. Et bien sûr, il n'y a pas de vitesse lente. Le modèle de plaque plongeante n'a que des vitesses plus rapides que la moyenne, parce qu'on n'a pas introduit de courant montant, de courant chaud. Et quand on prend donc les plus grandes longueurs d'onde de ces deux modèles, ici le degré 2, on voit qu'ils se correspondent très bien. Il y a un petit déphasage ici, un petit déplacement, mais de manière générale, ils sont en très bonne correspondance. Si on ajoute le degré 3, c'est-à-dire un peu plus courte longueur d'onde, le degré suivant dans la décomposition d'un mixérique. Cela colle encore très bien pour le super panache du Pacifique, le méga panache du Pacifique. Par contre, pour celui d'Afrique, ça colle un peu moins bien, mais c'est encore pas mal. On voit la forme allongée qu'on observe dans les modèles tomographiques. Par contre, quand on regarde, quand on filtre à plus courte longueur d'onde, la correspondance disparaît complètement. Alors ceci nous a donc conduit à proposer que cette zone ici était effectivement associée avec un cimetière de plaques, mais que, enfin, au cours des temps, les zones de subduction bougent, mais ne bougent pas énormément à la surface. Elles sont contraintes, peut-être sans doute par ces contraintes de moments d'inertie, à se situer toujours dans cette bande de vitesse rapide et pas vraiment ailleurs. D'autres observations assez remarquables. Donc ici, on représente encore la structure en degré 2, donc la structure de très grande longueur d'onde dans le modèle tomographique à 2800 km de profondeur. Et on sait déjà depuis longtemps, bon, ça a été rapporté dans cet article récent, mais c'est connu depuis les premiers travaux tomographiques, qu'il y a une correspondance entre la localisation géographique des superpanaches et la localisation des points chauds principaux. La plupart des points chauds se trouvent au-dessus des superpanaches et très peu dans la zone de vitesse rapide, un peu en bordure, mais pratiquement rien à l'intérieur. Il y a aussi, donc ici, donc ça c'est la distribution des vitesses sismiques, ça c'est la distribution des points chauds, on voit la correspondance. Et ici, on voit un autre modèle tomographique, mais cette fois-ci, un modèle d'atténuation, donc un modèle anélastique. Les modèles des vitesses des ondes S, c'est des modèles élastiques. Et ici, on regarde l'écart à l'élasticité, qui est très... l'atténuation donc, est très sensible à la température. Elle dépend de la température de manière non linéaire. Elle dépend aussi d'autres phénomènes tels que la fusion partielle et le contenu en eau. Mais la température est un paramètre important. Et donc, ici, on a aussi une très bonne correspondance entre la vitesse des ondes S, la distribution des vitesses des ondes S à la base du manteau, à 2800 km ici, et la distribution de l'atténuation dans la zone de transition, ici à 600 km de profondeur. Alors on peut voir ça, donc ça c'est dans le degré 2, hein, donc les plus grandes longueurs d'onde, mais on peut voir ça aussi en coupe. Ici c'est, ce qu'on a mis, c'est on a juxtaposé, donc on a fait deux coupes verticales, donc ça c'est la profondeur. On a juxtaposé un modèle du manteau inférieur en vitesse S, et un modèle du manteau supérieur en atténuation. Et vous voyez ici, le super panache se dessine très bien avec leur base très large et qui remonte, c'est une façon de parler. La tomographie, bien sûr, ne vous donne que la distribution des vitesses et pas la dynamique. Remonte assez haut dans le manteau inférieur. Et il y a une correspondance très bonne avec l'endroit où il y a les atténuations les plus fortes dans la zone de transition. Par contre, près de la surface, donc sous la lithosphère, on ne la voit pas ici, c'est dans les océans, elle a moins de 80 km d'épaisseur, peut-être ici, un peu par ici, mais on voit quelque chose de différent. On voit l'atténuation se déplace vers les rides. Ici, la petite flèche indique la ride Est-Pacifique sur cette coupe-là, et on a une zone d'atténuation juste autour de 200-300 km, où on pourrait avoir l'impression que si on relie ça à de la dynamique, on a un flux ascendant qui se déplace sous la lithosphère amenant la chaleur vers les rides. C'est bien sûr une interprétation. On a quelque chose de similaire aussi ici sur cette coupe-là du côté de Hawaï, du point chaud de Hawaï. Donc une relation certaine de nature, encore pas vraiment bien élucidée, entre la présence des superpanaches à la base du manteau et ce qui se passe dans le manteau supérieur, mais peut-être jusque sous la lithosphère. La relation, est-ce que ces superpanaches se continuent de manière uniforme à travers la discontinuité de 660 km, ça n'est pas sûr. On pourrait très bien imaginer qu'il y a une condition limite ici imposée par un flux de chaleur plus, enfin, avec des températures plus chaudes ici dans le manteau inférieur, et puis qui engendre un courant montant dans le manteau supérieur sans qu'il y ait de transfert de matière. Mais il doit bien y avoir au moins un peu de transfert de matière pour, contrebalancer la matière qui plonge dans le manteau inférieur dans les régions de subduction. Voilà, donc ça, c'était pour montrer ça. Encore une reconstruction ici, donc encore une fois pour les points chauds. Donc vous avez un modèle tomographique à la base du manteau, donc dans cette région qu'on appelle la D-seconde, donc par exemple, je ne sais pas exactement la profondeur, mais peut-être 2800 km. C'est un modèle tomographique particulier, mais qui ressemble aux autres. Et vous voyez, donc, ces régions de superpanache sont ici dessinées, superposées sur ce modèle, les principaux points chauds et aussi les régions des épanchements des trappes volcaniques qui sont ramenés à leur position au moment de leur éruption, hein, donc en tenant compte que l'observation à la surface est donc déplacée à cause de mouvements des plaques sur lesquelles ces épanchements ont été placés. Et donc ces auteurs ici proposent que la plupart des traps et des hotspots en fait correspondent aux bordures ont lieu aux bordures de ces superpanaches. Donc, une observation de surface, ou deux observations de surface, les points chauds principaux, et donc les petites croix, et les zones de trappes, d'épanchements volcaniques importants, qui sont les trappes. Alors, donc ça, c'est la relation avec la structure du manteau supérieur. Les bords abrupts. Alors, ça, c'est une observation remarquable qui a été faite à partir des années 2000, où j'en donne un exemple ici. Donc, ce sont des ondes S qui deviennent ondes S diffractées. On regarde en fonction de la distance ici, 93 degrés, donc distance d'arc. Ici, vous avez une coupe verticale d'un modèle tomographique et les trajets des raies considérés. Et donc, c'est pour un événement ici. Alors, vous avez ici l'Amérique du Sud, l'Afrique, donc ici le superpanache africain, et cette série d'enregistrements correspond à un événement ici sur l'aride Est-Pacifique observé en Afrique du Sud. Il y a un réseau temporaire qui était installé à l'époque en Afrique du Sud, un réseau large bande sismique, et ce que vous voyez, c'est qu'en fonction de la distance, vous avez cette onde S-diffractée qui, de manière brutale, enfin, sur un intervalle de distance très court, environ 2 degrés, qui correspond à environ 100 km de distance à la limite noyau-manteau, change de manière très abrupte, donc deviennent beaucoup plus ralentis. Donc ceci correspond au passage où les ondes commencent à être échantillonnées le superpanache africain. Et donc, on interprète ceci pour indiquer que c'est les bords de ce superpanache sont abrupts, que la structure change sur une distance très faible, une distance qui est probablement difficile à expliquer par une structure thermique, purement thermique, parce que la chaleur diffuse, et donc ces structures qui sont là sans doute depuis pas mal de temps, on ne sait pas exactement combien, j'y reviendrai, ont largement eu le temps de diffuser la chaleur, donc ça suggère qu'il y a peut-être une variation de composition. On pourrait aussi avoir une variation très rapide de viscosité si la viscosité a une dépendance de la température très forte. Avec cette observation-là, on ne peut pas complètement, exclure cette possibilité. Donc, ces auteurs avaient donc fait une représentation donc imaginaire de la structure possible de ces superpanaches avec ces bords abrupts. Ce qui se passe en haut n'est pas clair. on n'a pas une très bonne... Est-ce qu'ils ont une limite très marquée en hauteur aussi ou pas, n'est pas vraiment encore très bien définie. On sait qu'ils continuent, la tomographie indique qu'ils ont une continuation vers la hauteur, mais exactement, est-ce qu'il y a des régions où on a aussi des bords abrupts, donc en montant, ce n'est pas encore très clair. Ici, une autre observation, c'est faite dans mon groupe à moi, où on a regardé encore une fois l'Afrique, ici, mais de l'autre côté. Avant, on était de ce côté-là. Ici, c'est un autre bord du superpanache africain, avec des événements dans les régions Fiji-Tonga, des ondes diffractées qui vont aussi en Afrique, qui vont aussi dans ce même réseau africain, et qui échantillonnent le bord ici, qu'on voit mal en dessous, c'est le modèle tomographique et les rouges et bleus ici en dessous, le bord du superpanache africain. Donc on passe avec des azimuts, ici maintenant on ne regarde pas en fonction de la distance, mais en fonction de l'azimut, donc en fonction de l'angle par rapport, du trajet par rapport au nord, et à azimut de plus en plus grand, donc on va pénétrer de plus en plus dans le superpanache. Et on voit effectivement, bon, c'est peut-être pas très clair, mais on voit ici l'onde S diffractée marquée par la ligne bleue et un décalage ici autour de 212 degrés d'azimut vers des arrivées beaucoup plus lentes. En plus de ces... Donc ça, c'est les enregistrements de cet événement dans ce réseau en fonction de l'azimut avec différents filtrages. Quand vous filtrez à plus longue période, vous perdez le détail, mais vous voyez mieux peut-être le changement de forme d'onde en moyenne. Ce qui est aussi frappant, c'est que dans cet intervalle d'azimut où le temps de propagation devient plus lent, et ici on dit que c'est de l'ordre de 15 secondes, ce qui est aussi considérable, on voit apparaître une complexité dans la forme d'onde. En fait, ce qui est marqué ici en jaune et rouge, ce sont ce qu'on appelle des arrivées secondaires, des arrivées qui ne sont pas prédites par un modèle simple, un modèle 1D comme PREM, qui indiquent la présence d'hétérogénéité forte de structures. Et dans la diapo suivante, on voit qu'on peut modéliser ça en modifiant simplement le modèle tomographique. C'est-à-dire ici, c'est un des modèles tomographiques qui, avec maintenant vu un peu une autre projection, difficile, un peu difficile à voir. En tout cas, ça, c'est le même séisme, et ça, c'est les stations en Afrique du Sud, et pour voir les trajets. Et on voit que lorsque on calcule un sismogramme synthétique dans ce modèle tomographique simple, on ne voit pas grand-chose. C'est ce qui est montré ici, donc aussi en fonction de l'azimut. Dans cette direction-là, on rentre dans le superpanache, et on ne voit pas grand-chose. Par contre, si on renforce les amplitudes des hétérogénéités latérales, donc on sature le modèle, tout en gardant ses bords les mêmes que ceux indiqués par la tomographie, on voit apparaître très profond dans le manteau, on voit apparaître des ondes secondaires, cette onde verte par exemple, qui s'est propagée d'abord dans la région rapide pour être réfractée et arriver à la station en même temps ou à un temps un peu différent de cette autre onde qui arrive, ou presque en même temps que cette autre onde qui a passé plus de temps dans la partie lente, mais un trajet différent. Et donc, si on modélise les ondes dans un modèle comme ça, on voit apparaître, au moins qualitativement, ces arrivées secondaires pour expliquer la complexité des formes d'ondes. Donc, ceci nous indique que la tomographie, telle qu'on la pratique à l'heure actuelle, nous donne de bonnes contraintes sur la forme des anomalies, la forme des bordures des superpanaches. Par contre, elle sous-estime les amplitudes des variations latérales, ce qu'on peut comprendre parce que la tomographie inclut une inversion, et donc c'est un problème inverse qui n'est pas très bien conditionné, donc on est obligé d'appliquer ce qu'on appelle du damping, qui a tendance à dégrader notre précision sur les amplitudes des variations latérales. Encore une autre, un autre exemple tout récent. Alors ceci, c'est sur le bord nord de la superpanache pacifique, ici, où simplement, aussi, on a donc un séisme d'un côté, des stations ici en Amérique du Nord. C'est un réseau qui s'appelle USARAY qui a été déployé depuis 5 ans et qui donne des données très denses. Enfin, c'est des stations toutes les 70 km, ce qui est sur toute la largeur des USA. Et donc, qui permet donc d'employer des méthodes beaucoup plus performantes pour étudier les formes d'ondes. Et ici, on a tout simplement classé les formes d'ondes par une analyse de cluster, donc en famille. Et quand vous prenez trois familles de formes d'ondes, vous voyez, regardons par exemple celle-ci simplement, vous voyez que les formes d'ondes se groupent en trois familles dont l'une correspond à celle qui passe en dehors du superpanache, l'autre, la verte, correspond aux ondes qui passent à l'intérieur du superpanache, et on voit apparaître tout à fait, sans avoir vraiment mis de conditions pour ça, la bordure, le bord du superpanache. Donc encore une fois, une indication que ce bord est vraiment très bien marqué. Donc on a vu en Afrique de ce côté-ci, en Afrique de ce côté-là, sur le Pacifique, et il y a encore quelques autres études sur le Pacifique Ouest qui montrent des résultats similaires. Donc, d'autres observations faites aussi qui vont dans le sens d'une nature de compositionnelle différente des superpanaches, c'est l'anticorrelation de la vitesse V phi avec la vitesse Vs. Alors, regardons d'abord les modèles S comparés au modèle P. Ceci, c'est une comparaison de deux modèles particuliers. Donc, aussi à la profondeur de 2800 km, la projection est un peu différente de celle que j'utilisais avant. Mais vous voyez encore les super panaches ici, le Pacifique, l'Afrique, avec l'anneau de vitesse rapide tout autour. Et quand vous regardez les modèles P correspondants, donc à la même profondeur, vous voyez qu'il y a de la corrélation, mais que la corrélation n'est pas parfaite. On distingue peut-être ici des vitesses lentes à l'endroit du superpanache du Pacifique, des vitesses lentes sous l'Afrique, mais la corrélation est la meilleure ici en Eurasie et en Amérique centrale, mais dans d'autres régions, la corrélation est très mauvaise, en particulier dans le Pacifique Nord. Alors, on pourrait penser que peut-être c'est des problèmes de résolution, en particulier dans les modèles des ondes P, qui n'ont pas, pour la construction desquels, on a une un peu moins bonne résolution dans les océans. Cependant, on voit cette décorrélation, si vous voulez, on la voit même dans les très grandes longueurs d'onde, dont on pense qu'elle est réelle. Ici, je ne sais pas si on voit grand-chose, à la profondeur de 2800 km, à gauche des différents modèles d'ondes P, encore une fois par différents groupes, et différents modèles d'ondes S, avec leurs caractéristiques ici. Dans les modèles d'ondes P, un peu plus de variabilité, mais on retrouve quand même ces caractéristiques dans pratiquement tous les modèles, avec cette espèce de barre rapide ici dans le Nord-Pacifique et des vitesses plus lentes que la moyenne au-dessus des Aléoutiennes, ici dans le Nord-Pacifique, qui n'est pas du tout la même dans les modèles S. Alors, ceci, donc, une corrélation pas parfaite entre les modèles S et les modèles P. Donc, jusqu'à présent, ce n'est pas très, très... Bon, ça ne nous dit pas grand-chose. Ça pourrait être... On pourrait l'obtenir même avec simplement des variations de température. Mais ce qui est plus frappant, c'est l'anticorrélation donc, entre le modèle VS et le modèle Vφ. Alors, Φ, ici, c'est une vitesse qu'on ne peut pas obtenir directement par la sismologie, puisqu'on observe les ondes S avec leur vitesse Vs, qui dépend du module de cisaillement et de la densité, et les vitesses P, qui, elles, dépendent du module de cisaillement et du module de contrépressibilité, les deux. Cette vitesse Vφ, qui est une vitesse qui nous permet de raccorder les observations sismiques avec les expériences minéralogiques plus directement, ne dépend plus que du modèle d'incompressibilité K. Et donc cela a un intérêt du point de vue de la comparaison avec la minéralogie. Et vous voyez que quand ce modèle qui a été construit de cette façon, on voit une anticorrélation très frappante entre assez grande longueur d'onde de ces modèles, entre la distribution des vitesses VS et VFI, où on a des vitesses plus rapides que la moyenne dans le Pacifique et sous l'Afrique, comparées aux vitesses VS. Donc la définition de VFI, connaissant la définition de VS et de VP, on en déduit la relation entre la vitesse VFI et les vitesses VP et VS. Ça implique une certaine manipulation des données ou des modèles sismiques et donc une certaine incertitude plus grande, mais la carte est quand même assez frappante. Alors d'autres auteurs ont pu confirmer ceci. Si vous avez les modèles, donc un autre modèle avec VS ici, donc les cartes à différentes profondeurs de 140 km à 2800, ici le VFI, ils appellent ça VC, et ici le modèle VP. Et vous voyez de nouveau, si on se concentre ici à la base du manteau, cette anticorrélation, une corrélation pas parfaite entre VP et VS, et une anticorrélation très nette entre VFI et VS, alors que les corrélations dans le manteau supérieur sont plus... on a plus de corrélations entre tous ces trois paramètres dans le manteau supérieur. Alors récemment, on s'est posé la question, est-ce que cette anticorrélation de VFI avec VP est peut-être due, de VFI et de VS, peut-être due à un problème dans l'inversion des modèles. Et ici, alors, ces auteurs, dans un papier récent, ont d'abord construit leur modèle P et S à partir de données de temps de parcours d'onde P et d'onde S. Et ils en ont retiré d'abord le coefficient de corrélation entre P et S, donc ici, en fonction de la profondeur. Vous voyez, les vitesses VP et VS sont corrélées, mais pas parfaitement. Parfaitement, ce serait un coefficient de corrélation de 1. Par contre, le coefficient de corrélation entre VFI et VS, lui, est proche de 0 dans le manteau supérieur et moyen, et quand on se rapproche de la base du manteau, il devient fortement négatif. Il y a un autre paramètre qu'on peut extraire des cartes de vitesse P et S, c'est ce qu'on appelle le rapport S, c'est le rapport des variations latérales des vitesses S sur les variations latérales des vitesses P. Et ce rapport est important pour l'interprétation, parce qu'on voit que dans la Terre, et ça ce n'est pas le seul modèle qui le voit, ils ont simplement confirmé une observation connue depuis longtemps, que ce rapport est de l'ordre de 1,5, 1,6, 1,7 dans l'essentiel du manteau, des profondeurs du manteau, mais quand on arrive à la base du manteau, il devient très fort, il devient plus grand que 2,5. Or, quand on regarde à quoi correspond ce rapport en fonction des paramètres élastiques, donc de cisaillement, de compressibilité, de densité, et qu'on compare ça à des modèles minéralogiques, on s'aperçoit qu'on ne peut pas, expliquer un rapport aussi élevé, un rapport R aussi élevé, plus élevé que 2,5, par simplement des variations latérales de température. Il est important, donc on est pratiquement obligé d'inclure des variations latérales minéralogiques. Alors, dans ces calculs, la seule chose qui n'est pas incluse, c'est la possibilité de transition de phase perovskite-post-perovskite qui pourrait se placer quelque part ici dans le manteau profond. Je vais en parler un peu plus tout à l'heure. Donc, qui pourrait changer un peu les choses. Si on garde ça à l'esprit, ceci est quand même assez frappant. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de voir si ceci pouvait être artificiel, causé artificiellement par toutes les incertitudes dans l'inversion des données. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un modèle géodynamique à trois dimensions avec seulement des variations de température, sans variations de minéralogie. Ils en ont déduit les paramètres élastiques, donc dans le modèle de manteau, et à partir de ces paramètres élastiques, ils en ont donc construit un modèle sismologique et estimé les temps de propagation des ondes P et des ondes S dans ce modèle synthétique où la seule variabilité est donc en fonction de la température. Alors, quand ils ont fait ça, et ils ont réinversé pour voir dans les mêmes conditions, avec le même trajet, la même géométrie des données, mais avec ces données synthétiques, est-ce qu'ils peuvent obtenir par inversion ces caractéristiques qu'on voit dans les inversions réelles. Et ils ne peuvent pas. Donc ici, c'est les mêmes dessins. À gauche, les coefficients de corrélation VPVS. Alors VPVS, c'est à l'entrée. Alors il y a l'entrée, donc c'est ici en trait continu, à l'entrée, c'est rouge, hein, donc dans le modèle synthétique. Et après inversion, en noir. Et vous voyez que vous perdez un peu d'amplitude, mais que le coefficient de corrélation entre les P et S reste positif. Pour phi, donc, on perd aussi de l'amplitude, donc c'est les pointillés en rouge à l'entrée, en noir à la sortie. Mais tout de même, le coefficient de corrélation reste positif. Ici, on n'a que des valeurs positives, alors que dans le dessin précédent, le zéro était ici et on avait des valeurs négatives. Donc déjà, on ne peut pas expliquer les observations par simplement des artifices de l'inversion. Et de même pour le profil donc, du rapport R, donc ce fameux rapport qui ne peut pas excéder une valeur de 2,5 environ, 2,4, 2,5 pour des modèles uniquement thermiques. Vous voyez qu'à l'entrée, on a cette variation rouge avec un peu plus fort à la base, mais ne dépassant pas 2,5. Et à la sortie, on a quelque chose d'un peu plus faible. On n'a pas du tout cette structure avec un rapport très fort à la base du manteau. Donc, encore une indication que traite probablement la structure à la base du manteau, donc, qui est vue par ces superpanaches, implique des variations de composition, de nature composite. Ensuite, donc, il y a encore une autre observation globale qui est celle-ci, vous noterez, j'ai mis possible, parce que autant les précédentes sont assez bien contraintes. Et il n'y a pas trop de discussion sur la question dans la communauté. L'anticorrélation de la densité et de la vitesse des ondes, elle, est possible, mais elle a été proposée en 1999 dans un modèle construit à partir des données de modes propres, donc des fréquences des modes propres qui sont sensibles à la fois à VS, VP ou VFI et la densité. Et donc, ils ont construit un modèle de très grande longueur d'onde. Ici, c'est ce modèle-là. Et là, on en a extrait le degré 2 seulement. Et vous voyez qu'à la base du manteau, ici, à la profondeur de 2800 km, ils ont ils voient bien l'anticorrélation entre VS et VFI, qui est donc bien documentée par ailleurs aussi, donc ils confirment. Mais ils ont aussi des densités plus fortes que la moyenne dans les régions des superpanaches et au contraire des densités plus faibles que la moyenne dans les régions donc en dehors des superpanaches. Ça a fait grande sensation au moment où la publication de cet article parce qu'effectivement, les géodynamiciens aimeraient bien trouver un moyen de stabiliser les superpanaches et un moyen... Le moyen de le faire, ce serait qu'il soit plus dense que la moyenne. Mais il se trouve que jusqu'à aujourd'hui, ce résultat-là est encore très controversé parce que la sensibilité des modes propres à la densité est très faible. Et bon, en particulier, bon, ça c'est un travail que moi j'avais fait à l'époque j'avais exploré une grande quantité de modèles qui pouvaient expliquer les données des modes propres, donc ici seulement montrant seulement le degré 2, et donc ici des familles de modèles qui expliquent bien les données et des familles de modèles qui n'expliquent pas bien les données. Je n'entre pas dans les détails, mais ce que vous voyez ici, c'est que on voit bien dans ces inversions-là que la variation avec la profondeur de ce paramètre R, donc le rapport de la force des hétérogénéités en S à la force des hétérogénéités, ou l'amplitude des hétérogénéités des ondes P, augmente dans la base du manteau avec des valeurs plus grandes que 2,5. La corrélation VSVP est de l'ordre un peu plus de 0,5. Par contre, mais on a aussi des modèles qui ne vérifient pas, enfin qui ne collent pas avec les données, qui montrent un comportement similaire. Par contre, pour la densité, on voit que les modèles qui contraignent bien, les modèles qui représentent bien les données, certains modèles peuvent avoir des densités positives, donc des variations de densité positives, donc corrélation positive avec la vitesse des ondes S. Et dans les modèles, il y a un grand nombre de modèles, aussi bien avec corrélation positive et corrélation négative, qui ne conviennent pas. Donc un problème encore ouvert qui mériterait d'être réexaminé. On a maintenant, plus de 10 ans plus tard, on a des données de mode beaucoup bien meilleures, grâce en particulier à une plus grande base de données. D'une part, plus de stations large bande, et d'autre part, on a eu quelques événements sismiques très, très forts, des méga-séismes, qui donc engendrent des données de mode propre de très bonne qualité. Donc, on se pose donc, à partir de ces données que j'appellerais globales, on se pose donc la question de l'origine de ces superpanaches ou LLSVP, méga panache, superpanache, j'utilise les mots, je change de notation un peu trop souvent peut-être. Donc une indication qu'il y a de l'hétérogénéité de composition, très probablement. Donc on pourrait se demander, est-ce qu'il s'agit d'un matériau primordial, c'est-à-dire un de ces réservoirs qu'aimeraient bien les géochimistes et qui pourraient être contenus dans dans ces mégapanaches, ou bien est-ce que ce serait essentiellement d'une hétérogénéité qui serait introduite par les plaques qui seraient tombées au cours du temps au fond du manteau. Donc, alors ça conduit à certains dessins comme ceci. Voilà, je vais faire une petite pause et donc vous pouvez regarder ça. Le dessin de gauche a été proposé par Courtiot au moment d'un travail qu'il a fait sur la classification des points chauds. D'après lui, il y aurait différents types de points chauds, certains qui viendraient de la base de la CMB, d'autres qui seraient engendrés au-dessus des super panaches, et encore d'autres qui pourraient provenir de régions beaucoup moins profondes. Ceci, c'est un... on a proposé un dessin moins beau, mais un petit peu différent, où on a voulu mettre en évidence la possibilité de cette région assez limitée dans l'espace où peuvent tomber les plaques lithosphériques qui pourraient être contrôlées par la stabilité des super panaches. Donc voilà, ici, vous voyez, donc encore une fois, je rappelle la coupe d'un superpanache ici sous le Pacifique, avec sa forme plus étroite quand on monte dans le manteau inférieur, et peut-être ici éventuellement qui pourraient monter sous la forme d'un courant diffus et peut-être faire naître des petits panaches à la limite 660 km. Mais ça, je vous laisse ça à votre imagination. Donc je vais m'arrêter 2 minutes parce que je vais passer à autre chose. Et donc je vais vous demander si vous avez des questions. Je peux prendre 1 ou 2 questions pour faire une petite pause. Pas de questions ? Oui, allez-y. Plus fort parce que... Ouais. C'est les modes propres qui ne sont... Les modes propres... Donc la fréquence des modes propres dépend de la structure élastique dans le manteau. Elle dépend de la vitesse de 3 paramètres élastiques, donc, qui sont la vitesse des ondes S, la vitesse des ondes P et la densité. C'est la seule mesure sismique qui est vraiment de la sensibilité par rapport à, qui soit sensible à la densité à grande échelle. La seule autre manière d'avoir des informations sur la densité, c'est quand on a des ondes réfléchies sur une discontinuité, parce que le coefficient de réflexion dépend de l'impédance, qui elle-même est le produit de la densité et de la vitesse. Mais donc, quand on regarde globalement à partir de la tomographie, les modes propres sont les seuls qui sont sensibles à la densité. Les ondes S, les temps de propagation des ondes S et des ondes P ne sont vraiment pas sensibles à la densité. Mais cette sensibilité est quand même très faible. Il faudrait que les variations de densité à la base du manteau soient plus grandes que de l'ordre de 1,5 ou 2% pour commencer à vraiment pouvoir les voir. Encore une question et on continue.
Peut-on simuler le manteau profond avec des méthodes numériques, mais avec des modèles qui ne sont pas des fluides classiques? Et autre chose, est-ce que ça existe?
Ah, c'est intéressant comme question.
Et justement, corollaire à ça, si ça existe, est-ce que ça aiderait à la compréhension?
Ben, je pense que ça doit être possible, mais j'espère faire un cours entier sur la dynamique. Et on pourra l'aborder à ce moment-là. Bon, on va continuer alors. Donc là, je vais passer. Caractériser les superpanaches de manière globale. Et maintenant, on va se focaliser sur des mesures plus fines et leurs relations avec ce qu'on trouve par d'autres disciplines, en particulier dans ce dont je vais parler aujourd'hui, la physique des matériaux. Donc le premier, il y a un certain nombre de sujets que je vais aborder. Aujourd'hui, je vais parler de la discontinuité de la déseconde et la transition de phase de la post-perovskite. Il y a aussi l'anisotropie et les ultra-low velocity zones dont je n'aurai pas le temps de parler. Je ne sais même pas si je vais arriver au bout de ce riche sujet qui est un sujet très nouveau. Je vous rappelle que la transition de phase de la perovskite en post-perovskite a été découverte en 2004, donc il y a à peine 10 ans, 8 ans, et donc a changé un peu la vue des choses. Donc commençons par le commencement, et le commencement c'est toujours la sismologie, les observations sismiques. Donc là, on va regarder, il y a donc certaines observations qui indiquent la présence d'une discontinuité sismique au-dessus de la CMB, donc de la limite noyau-manteau, environ 200-250 km au-dessus. Cette discontinuité a été découverte en 1983 par Lay et Hellenberger, qui ont étudié la paire d'ondes sismiques, l'onde S, qui donc est une onde directe qui se propage entre la source et la station, ici à 80 degrés de distance épicentrale. Les distances épicentrales, donc les meilleures pour ce genre d'études, c'est entre 75 et 85 degrés de distance épicentrale, où l'onde S échantillonne déjà assez près de la base du manteau. Et l'onde SCS, c'est donc l'onde qui se réfléchit sur la limite noyau-manteau. Et donc, si vous avez une discontinuité entre les deux, vous allez avoir des triplications, nous en avons parlé dans le premier cours, vous allez avoir une complexité avec des ondes plusieurs ondes qui vont arriver dans un intervalle de temps très proche et des ondes intermédiaires, donc qu'on appelle des précurseurs à l'onde SCS, hein, l'onde qui va être réfléchie sur cette discontinuité qui est au-dessus de la CMB va en principe arriver avant l'onde SCS. L'onde S est la première arrivée, ensuite cette onde-là et ensuite l'onde SCS. Donc cette première étude, je voulais en parler parce que c'est assez intéressant, elle avait été faite avec une géométrie comme ceci. Ils avaient pris des événements profonds, donc des séismes à 600 ou 650 km de profondeur. L'avantage des séismes profonds, il y en a deux, c'est que la forme d'onde est très compacte, la durée de la forme d'onde est courte, donc ça donne des données de très bons signaux sur bruit, niveau signal sur bruit, et aussi qu'on sépare les ondes pour les séismes profonds, vous avez une onde, l'onde qui va d'abord se réfléchir sur la surface et qui repart comme ça, l'onde petit ss et l'onde petit ps. Et pour les séismes très profonds, l'écartement entre l'onde principale S et l'onde qui s'est réfléchie à la surface est assez grande pour qu'on puisse voir, pour qu'elle soit plus loin que l'onde SCS, et donc qu'on puisse bien voir dans la fenêtre SSCS s'il se passe quelque chose d'anormal. Et donc, ceci, ce sont leurs observations donc dans les stations de l'époque du réseau nord-américain. C'était encore à l'époque des stations, des enregistrements analogiques, hein, donc des instruments sur papier qu'on doit numériser avant de les étudier. Ceci, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, on enregistre de manière digitale avec une grande dynamique. Donc, c'est ce qui donne des possibilités de filtrage en particulier beaucoup plus importantes. Mais en tout cas, donc, ça, c'était à l'époque. Donc, vous avez ici, en fonction de la distance, l'onde S qui arrive de plus en plus tard, puisqu'elle va elle se propage sur un trajet de plus en plus long. L'onde SCS, c'est donc l'onde réfléchie, qui, elle, se rapproche de plus en plus de l'onde S. Hein, au fur et à mesure que la distance augmente, l'onde S est de plus en plus proche de la CMB, donc elle est de plus en plus proche de l'onde réfléchie. Donc, vous la voyez ici. Et alors, ce qu'ils ont observé, c'est qu'à ces distances ici, au-delà de 70 degrés, ils ont, entre l'S et la SCS, une petite onde qui arrive ici et qui n'est pas prévue par les modèles 1D, comme ici, à l'époque, ils utilisaient... Le modèle PREM existait déjà, mais il a fallu quelques années pour que les gens l'utilisent de manière courante. Ceci, c'est un autre modèle de référence qui existait à l'époque, le modèle de Jeffries Bouin, qui était un modèle tout à fait correct pour ce genre d'études, qui, lui, donc, est ici indiqué, donc ça, c'est le profil de profondeur à partir de 2200 km jusqu'à la limite noyau-manteau. C'est le pointillé, donc il est très lisse, avec un petit changement de gradient dans les derniers 100 km. Mais pour expliquer donc l'apparition de cette onde intermédiaire, il propose un modèle avec une discontinuité, ici à peu près 250 km de profondeur. C'est ce modèle SLHO donc, distingue du modèle de référence par cette discontinuité de structure d'environ de 2,5 à 3 % de saut de vitesse des ondes S. Et donc ici, on compare, donc c'est un zoom sur les distances considérées entre 66 et 84 degrés avec l'observation qu'ils appellent SCD et le synthétique correspondant dans le modèle choisi, donc le modèle SL avec sa discontinuité. Ils voient qu'ils arrivent à montrer ceci très bien. Alors, donc depuis, il y a eu beaucoup d'études de ce type qui ont confirmé ce genre d'observation dans différentes régions du monde. Donc la première, c'était dans cette région-là, mais vous voyez ici que déjà en 1998, cette discontinuité, donc entre guillemets tout de même, était observée dans de nombreux endroits, avec des modèles proposés qui montraient, qui mettaient la discontinuité entre donc à peu près 250 km de profondeur, plus ou moins 100 km, et des sauts de vitesse de l'ordre de 2 à 3%, ou 2 à 3,5%, avec ensuite, à la base, donc dans la partie la plus profonde, des gradients de vitesse assez différents selon les modèles. Donc, impliquant des variations latérales importantes. Alors, il faut savoir que l'existence de cette discontinuité, qui est relativement robuste, a quand même été soumise à pas mal de critiques. Et il y a quelques articles qui ont proposé que cette onde intermédiaire pouvait aussi bien être provoquée par des variations latérales, donc la focalisation d'énergie, des ondes qui seraient réfractées par des structures latérales plutôt qu'un modèle 1D. Donc il faut garder ça à l'esprit, mais disons que ces modèles simples à une dimension, donc avec une discontinuité, expliquent quand même pas mal les données. Donc ça, c'est dans les ondes S. Qu'est-ce qui se passe pour les ondes P? Est-ce qu'on observe aussi ce même genre de discontinuité pour les ondes P? Alors dans les ondes P, ça a été beaucoup plus difficile à observer. Et en fait, on pense que le saut de vitesse, s'il existe, est de moins de 1%. C'est moins clair, on observe de manière intermittente. Dans certains endroits où on observe le saut en vitesse ondes, on l'observe aussi peu, mais dans d'autres endroits, on ne l'observe pas. Et il faut faire appel à des méthodes d'observation plus sophistiquées. Ici, c'est une méthode de sommation de traces, dont on voit le résultat. Donc, en fonction du temps, on somme les traces en les alignant suivant une vitesse apparente de l'onde recherchée. Donc ici, par rapport à l'onde P. Donc, autre chose que je n'ai pas dit, c'est que pour les ondes S, on prend l'onde SCS comme onde de référence parce qu'elle est très visible sur le sismogramme. Par contre, dans le domaine de distance considérée, l'onde PCP, donc l'onde correspondante qui se réfléchit, l'onde P qui se réfléchit sur la limite noyau-manteau, est de très faible amplitude. Et donc, on est obligé d'utiliser l'onde P comme onde de référence. Ce n'est pas une très bonne onde de référence. Pour une onde intermédiaire qui se rapporte plus, c'est une réflexion, ça rapporte plus à l'onde PCP. Vous voyez dans ce diagramme donc, où on a sommé les traces avec des valeurs de la lenteur, donc la lenteur apparente en secondes par degré, différentes, rapportées à celle de l'onde P. On voit très bien l'onde P, on voit peut-être l'onde PCP, et on voit quelque chose ici au milieu, mais la sommation des traces a permis de déterminer de manière un peu plus précise la lenteur, d'abord de détecter la présence de cette discontinuité qui n'est pas visible à l'œil nu, ou pas très bien visible à l'œil nu, et d'en déterminer la lenteur. Donc un saut de vitesse beaucoup moins grand en onde P qu'en onde S. Alors ici, encore une fois, une autre étude aussi d'onde P, donc ici c'est encore une fois la géométrie, hein, avec votre onde P directe. L'onde PDP, c'est celle qui se réfléchit sur la discontinuité, donc notation qui a varié au cours du temps, mais PDP c'est une notation générale pour une discontinuité. Et donc PCP, donc la réflexion sur la CMB, sur la limite noyau-manteau. Donc ici, ces auteurs ont utilisé un nombre de séismes dans l'Ouest Pacifique, observé dans un petit réseau, le réseau de Yellowstone, où il y a un grand nombre de stations sur une petite distance qui permet de semer des traces et s'affranchir d'un certain nombre de sources de bruit. Et donc c'est encore l'étude jusqu'à présent la plus convaincante de la présence d'une onde donc réfléchie sur une discontinuité au-dessus de la CMB. Donc ici, ce sont les données brutes. Vous voyez, on ne parle pas grand-chose dessus. Ici, c'est l'analyse de sommation. Et ici, c'est une analyse plus sophistiquée en utilisant ce qu'on appelle l'analyse FK, donc longueur d'onde en fréquence et en temps, où on voit un maximum qui permet, en fonction de l'azimut, c'est important aussi de voir que si cette réflexion existe, elle vient bien dans la direction prévue, donc sur le grand cercle entre la source et la station, et ce qu'on voit ici assez bien. Vous voyez quand même dans ce diagramme qu'il y a beaucoup d'autres phases. Celles-ci, les phases X, seraient des multiples de la croûte. Donc près de la station, on a aussi des réflexions multiples dues à la structure de la croûte, en particulier ici une phase due au MOHO, donc à la base, la limite entre la croûte et le manteau, qui est une discontinuité assez forte. Donc, pas des résultats pas vraiment très convaincants au niveau des ondes P. Quand même quelques observations. Ici, cet auteur a essayé de faire la synthèse des observations et donc les endroits où elles auraient été observées, donc les discontinuités en ondes P, et des endroits où elles n'ont pas été observées, qui sont encore plus... Il y a plus d'endroits où on n'arrive pas à l'observer que d'endroits où on l'observe. Je montrerai plus tard une autre figure comparant avec ce qu'on voit sur les ondes S. Donc, encore une fois, l'onde PCP, PCP est difficile à observer, donc on utilise P comme phase de référence. Et de plus, les ondes P se propagent plus vite que les ondes S, donc la séparation entre les différentes phases va être plus faible. pour si ces phases sont toutes, proviennent toutes d'une séparation en distance de moins de 200 ou 300 km, elles vont arriver très proches l'une de l'autre, alors que pour les ondes S, vous pouvez écarter plus parce que la vitesse est plus faible, donc elle écarte les phases en temps de manière plus marquée. Alors, donc, qu'est-ce qu'on sait sur la discontinuité de la déseconde ? Elle est observée plus clairement en VS et correspond à un saut plus fort en vitesse des ondes S qu'en vitesse des ondes P, qui serait de moins de 1%. La profondeur, c'est environ 250, en moyenne 250 km au-dessus de la limite noyau-manteau, mais avec des variations latérales assez importantes. L'épaisseur de la transition, c'est... Est-ce qu'on a une transition vraiment brutale, donc horizontale, ou est-ce qu'on a un gradient, c'est-à-dire une certaine épaisseur sur laquelle pour passer donc des vitesses plus lentes aux vitesses plus rapides. Sur quelle épaisseur cela se produit-il? Et donc les données sismologiques permettent de contraindre ça par l'étude des amplitudes des phases réfléchies, et on pense que cette épaisseur est assez faible, moins de 70 km. Certaines études donne même des épaisseurs de moins de 30 km. Alors, c'est quelque chose à retenir quand on va comparer avec les modèles, avec les mesures et les modèles minéralogiques et expérimentaux. La corrélation entre les observations S et P est faible. Comme je vous l'ai déjà dit, dans certains endroits, on voit la discontinuité en S, on ne voit pas celle en P, et peut-être vice-versa. Et alors, il y a eu un essai d'estimer un saut possible de densité. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les ondes réfléchies, le coefficient de réflexion est sensible à l'impédance, donc au produit de la densité et des ondes et de la vitesse des ondes, ici des ondes VS. Et ceci a été étudié à partir des réflexions multiples. Il y a des ondes SCS qui continuent qui se réfléchissent plusieurs fois sur la CMB, se réfléchissent à la surface, encore une fois à la CMB, etc. On les appelle les ondes SCSN, où N est le nombre de réflexions sur la CMB. Il y a une étude qui a essayé d'estimer, c'était une estimation compliquée, parce que ces ondes dépendent aussi de ce qui se passe dans le manteau supérieur, donc il faut d'abord pouvoir séparer ce qui se passe dans le manteau supérieur de ce qui se passe dans le manteau inférieur, ce n'est pas évident. Ils ont fait une estimation qui serait de l'ordre de 1,7%, peut-être un peu précis ce chiffre après la virgule, ou disons 2%, en supposant, donc il faut, ce qu'ils ont mesuré c'est l'impédance, donc il faut supposer un VS pour avoir la densité, ils ont supposé un contraste en vitesse de 2,75%. Donc ça c'est, depuis je n'ai pas... Je ne connais pas d'autres études qui essayaient d'estimer ce saut en vitesse, en densité. Alors, donc, là, on arrive en 2004, et donc la découverte de la transition de phase dans la perovskite. Alors, j'insiste, c'est la perovskite MG, hein, la MG SiO3, donc une perovskite pure de magnésium, alors que bien sûr, c'est un composant majeur dans le manteau inférieur, mais il y a aussi dans les composants du manteau inférieur un peu de fer, un peu d'aluminium, d'autres éléments, donc il faudra tenir compte de ça. Donc cette discontinuité a été découverte dans la perovskite MG pure, et donc elle pourrait se produire à des pressions, donc 120 gigapascal, la limite noyau-manteau c'est 135, donc à une pression de la base du manteau, dans le manteau, et à des températures aussi qui pourraient correspondre à des températures du manteau inférieur. Donc après on s'est mis à étudier de manière beaucoup plus détaillée les différentes propriétés de cette transition. Jusqu'en 2004, j'en parlerai un peu plus, bien sûr, jusqu'en 2004, les interprétations possibles de la discontinuité de la déseconde étaient hétérogénéité chimique due aux plaques dans le manteau profond, donc des plaques avec des bordures de plaques qui pourraient réfléchir l'énergie. Et certains avaient quand même proposé une transition de phase, mais ce serait possible, mais cette transition de phase était inconnue. La découverte de la transition de phase dans la perovskite MG, donc qu'on va noter PV à petit PPV. C'est donc une grande découverte dans la mesure où on peut espérer que, comme on a fait dans le manteau supérieur avec les discontinuités de 400 et 660 km, on va pouvoir fixer la température. Si on peut déterminer la pente de Clapeyron de cette discontinuité de manière précise, on va pouvoir fixer la température à la profondeur de la discontinuité par, donc, en corrélant avec, avec les observations sismiques. Et donc diminuer, réduire les incertitudes sur la structure thermique et aussi chimique, on parlera de la chimie, dans la partie la plus profonde du manteau. Et donc, ceci à condition de pouvoir associer les discontinuités sismiques observées avec ces, ces transitions de phase, donc très précisément dans le manteau profond, la transition de phase de la pérovskite. Et donc, comme la pérovskite est la phase minéralogique la plus abondante dans le manteau inférieur, on peut espérer relier les variations de profondeur avec les variations de température et aussi obtenir une meilleure estimation de la température à la limite noyau-manteau. J'en ai parlé la dernière fois, qu'elle était assez peu connue assez peu précisément par extrapolation par le haut et par le bas, et donc aussi du flux de chaleur à la CMB, qui est important mieux comprendre l'évolution thermique de la Terre et aussi tout ce qui est lié à la génération du champ magnétique de la Terre. Alors, les caractéristiques de la transition de phase, donc si on pouvait faire ça, tout ça, hein, la sismologie nous donnerait la profondeur des discontinuités, l'épaisseur de la transition, est-ce qu'elle est rapide, est-ce qu'elle est brute, brutale, est-ce que c'est une discontinuité du premier ordre ou une discontinuité du second ordre, et donc les variations de vitesse, le saut en vitesse, ensuite aussi la topographie qui va nous renseigner donc éventuellement sur les variations de température, et quelques autres propriétés, la discontinuité couplée, je vais vous en parler aussi. Et donc, de l'autre côté, ceci doit être confronté en physique des matériaux à la pente de Clapeyron qui donne, pour une pression donnée, donc une profondeur donnée, la température correspondante et l'épaisseur éventuelle qui pourrait déterminer, en fonction de la composition, quelle est la zone en profondeur et en température, enfin ici c'est la température fixe, disons, quelles sont les zones en profondeur où pourraient coexister la pérovskite et la post-pérovskite. Il y a d'autres propriétés que je ne vais pas aborder aujourd'hui, mais j'aborderai plus tard. C'est l'anisotropie sismique, les propriétés de déformation et les propriétés, la structure cristalline et les propriétés de déformation de la pérovskite et de la post-pérovskite ne sont pas les mêmes. Et donc, on s'attend à avoir des variations dans l'observation de l'anisotropie sismique. J'en parlerai une autre fois. Et aussi, d'autres paramètres tels que les coefficients de partition. Donc, par exemple, est-ce que le fer, par exemple, préfère être dans la pérovskite ou dans la post-pérovskite, et quelles en sont les conséquences? Et encore d'autres propriétés, comme l'état de spin du fer, dont je parlerai plus tard, j'espère. Et donc ensuite aussi, en confrontant tout ça, non seulement on peut préciser les températures à la base du manteau, le flux de chaleur, éventuellement la composition, mais aussi la relation avec les grandes structures telles que les superpanaches. Alors, donc au départ, les physiciens des matériaux se sont rués sur cette nouvelle découverte pour en essayer de caractériser cette transition le mieux possible. Au début, donc, on a voulu caractériser la pente de Clapeyron, qui est une propriété très importante. Donc, ceci, c'est donc un an après la découverte. Le groupe japonais qui était impliqué, il y a plusieurs groupes qui sont impliqués dans la découverte de la post-pérovskite, aussi bien du point de vue expérimental que du point de vue théorique, la même année, en 2004. Et donc là, ils ont déterminé que la pente était positive, mais les premiers travaux, disons, suivant la découverte, cette pente n'est pas vraiment très bien contrainte parce qu'il n'y a que très peu de points de mesure. Mais bon, c'est déjà important de savoir qu'elle a une pente de Clapeyron positive et qu'elle correspond avec une augmentation de vitesse des ondes S et un plus faible changement dans la vitesse des ondes P. Tout ça, qualitativement, donc en accord avec ce que l'on pourrait penser par les résultats sismologiques. Alors, ces premiers résultats donc ont montré une augmentation du module de rigidité de la densité, mais par contre une diminution du module d'incompressibilité. Donc, quand vous pensez au fait que les ondes P, donc elles sont sensibles à la fois à la rigidité et à l'incompressibilité, la densité bien sûr, quand on mélange tout ça, on pourrait penser que vous pourriez avoir aussi bien une diminution qu'une augmentation de la vitesse des ondes P au niveau de la transition, mais en tout cas quelque chose de relativement faible peut-être. Donc il y a des propriétés anisotropes et de déformation différentes de la PV. La structure claire, j'en ai parlé. La pente de Clapeyron, donc les premières estimations étaient de l'ordre de 7,5 mégapascal par degré Kelvin, mais elle pourrait être plus supérieure à 10 mégapascal par Kelvin. Et donc ça se traduit sismiquement par une augmentation de vitesse de VS de 2 à 4%, est beaucoup plus faible, voire négative en VP, avec une augmentation de densité de 1 à 2%. Une anisotropie sismique de caractère très différent. Et en plus, on s'attend à observer, puisqu'elle a une pente de Clapeyron positive, si on est dans une région plus chaude, elle va se produire à une pression plus grande. Donc on s'attend à l'observer à de plus grandes profondeurs dans les régions chaudes que dans les régions froides. Ceci dit, à l'époque, et je pense encore de nos jours, comme je vais vous en parler en plus de détails, la profondeur de la transition est très incertaine parce qu'en fait, la calibration des pressions en laboratoire est très difficile et il existe plusieurs méthodes de calibration, mais qui donnent des résultats qui ne sont pas tout à fait en bon accord. Donc, il reste des incertitudes très grandes. Et certaines mêmes estimations placent cette transition de phase donc, à des profondeurs qui correspondraient aux profondeurs du noyau, donc elles ne seraient pas observées dans le manteau, et donc là, il n'y aurait pas lieu d'interpréter la discontinuité du manteau, si elle existe, en termes de cette transformation de phase. Donc vous voyez, encore, il y a des incertitudes en sismologie, il y a des incertitudes en physique des matériaux, il faut rassembler les deux et essayer de faire coller tout ça pour avoir plus d'informations. Donc, alors revenons, j'ai le temps, je pense, de présenter cet élément-là. Revenons aux discontinuités sismiques un moment. Alors, donc, je vous ai dit que l'observation de la discontinuité en ondes S était assez convaincante et assez fréquemment observée. Donc, ici, vous avez l'onde S, c'est encore des exemples, ici, tiré de ce travail que j'ai choisi de manière. J'ai choisi exprès. Donc, ça correspond à des événements en Amérique du Sud observés en Californie et le long de la côte ouest des États-Unis, et donc avec des points de réflexion sous l'Amérique centrale. Et vous voyez donc ces ondes intermédiaires. Bon, vous voyez qu'il y a aussi du bruit. Ici, c'est peut-être plus clair. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de bruit, mais quand on fait une analyse temps et vitesse apparente, on récupère quand même assez nettement un maximum d'énergie correspondant à une vitesse intermédiaire, une vitesse apparente intermédiaire entre la S et la SCS, qui correspond bien à l'idée qu'on se fait d'une discontinuité au-dessus de la déseconde. Mais donc en regardant dans différentes régions, donc là je n'ai montré qu'une seule, mais ces auteurs ont montré qu'il y a quand même des variations latérales importantes. Ceci se voit en contrastant ces deux panneaux-là, où vous voyez que dans celui-ci, la réflexion, la phase réfléchie est bien plus proche de l'onde S que dans celle-ci. Bon, ce n'est peut-être pas tout à fait les mêmes distances, mais en tout cas, disons que la conclusion, c'était qu'il y avait des variations latérales importantes. Mais ce qui est peut-être plus intéressant, mais aussi assez controversé, c'est que ces auteurs ont montré, dans cette région-là, la présence possible d'une discontinuité d'une face qui aurait la polarité inverse, ici S étoile. Alors, vous me direz, c'est assez bruité, on voit plein de petits, des petites ondelettes ici. Pourquoi interpréter celle-ci en termes d'une phase particulière ou non, c'est assez controversé. Ceci dit, bon, cet article a été publié. Il y en a eu plusieurs, quelques articles qui ont montré l'existence éventuelle de phases donc, de polarité différentes arrivant plus près de la SCS et donc qui pourraient correspondre à, on aurait une discontinuité positive, donc avec augmentation de vitesse, puis une discontinuité négative plus près de la CMB qui correspondrait à une diminution de vitesse. Et alors, on interpréterait ça, par exemple, si vous avez une plaque qui arrive à la CMB, la première correspondrait au haut de la plaque et celle d'en dessous correspondrait au bas de la plaque, enfin, en bas de la plaque, plus près de la CMB. Vous pourriez avoir une géométrie différente, comme ceci, avec peut-être ici une zone. Ils ont de l'imagination débordante, ils me proposaient une zone de fusion partielle ou peut-être des discontinuités opposées. Alors, cet article était publié en 2004, donc la même année que la découverte de la post-ferrovskite. Mais bien sûr, tout ça pourrait être aussi bien interprété par la présence d'hétérogénéité latérale et donc de réfraction latérale qui viendrait apporter de l'énergie dans ces sismogrammes. Ceci dit, avec la découverte de la post-ferrovskite, cela a fait quand même parler l'imagination, surtout des géodynamiciens. Et tout de suite après, il y a eu un article de Hernlund et al. En 2005 qui a proposé qu'on pourrait avoir une double transition perovskite-post-perovskite. Alors ça va être la dernière diapo que je vais vous laisser réfléchir à ça, parce que ce n'est peut-être pas évident quand on le regarde du premier coup. Si vous connaissez la position de la transition de phase de perovskite en post-perovskite avec sa pente de Clairès-Perron positive, et on a beaucoup d'incertitudes sur la température du noyau, de 3700 à 4300 degrés Kelvin, on a pas mal d'incertitudes, mais suivant que le noyau serait plus froid ou plus chaud, on pourrait penser la courbe de température en fonction de la profondeur dans le manteau pourrait couper. Dans le cas froid, ce serait un géotherme froid. Donc ici, on continue par les variations adiabatiques qui correspondent à la convection dans le manteau. Donc on raccorde ça. Ici, on a cette couche limite pour aller dans le noyau. Donc elle couperait une seule fois la transition. Alors que si le noyau est chaud, on pourrait éventuellement recouper une deuxième fois la transition. Et donc on pourrait, ici, si on traduit ça en vitesse sismique, on aurait dans le cas d'un noyau froid une seule transition, un saut de vitesse positif. Mais dans le cas d'un noyau plus chaud, on pourrait avoir une phase positive puis une transition négative. Donc ce serait une façon d'expliquer les observations proposées par Thomas et al. Et aussi, bien sûr, suivant qu'on observe ou qu'on n'observe pas, ça pourrait nous fixer un peu plus sur la température dans le noyau. Inversement, si on fixe la température du noyau, on pourrait penser aux variations latérales de température dans le manteau, et suivant qu'on est dans une région chaude, une région moyennement chaude et une région froide, on pourrait traverser de nouveau la limite de perovskite en post-perovskite, soit en un seul endroit, ou pas du tout, dans les régions très chaudes, puisqu'elle aurait lieu dans le noyau, dans les régions moyennes une fois, et dans les régions très, très froides deux fois. Et donc, ça se traduirait au niveau des vitesses par des profils de vitesse différents, soit pas du tout de discontinuité, soit une discontinuité, soit deux. Voilà. Alors donc, il a proposé un petit dessin comme ceci, donc, où on n'aurait pas du tout de discontinuité dans les régions chaudes, et dans les régions froides, on pourrait avoir une double discontinuité donc, dans les régions de plaques plongeantes, mais qui serait due à la transition, à double transition de la phase perovskite à post-perovskite. Alors je vais conclure ici. Donc, si cette double transition existe, elle permettrait d'estimer les variations latérales de température dans la région où elle est observée, la discontinuité sismique. Quand ils ont fait ce petit calcul donc, basé sur les résultats très préliminaires sur la transition de phase et ces résultats un peu controversés sur cette discontinuité négative, donc juste au-dessus de la CMB, ils ont obtenu des variations latérales de température énormes, hein, de 1300 à 1700 Kelvin, qui sont probablement excessives dans le manteau profond. Et donc, ils en ont déduit que ça ne pourrait être dû seulement aux variations de température, qu'il faut invoquer aussi des présences d'hétérogénéité chimique, donc en particulier la lithosphère des plaques au fond du manteau. Bon, cet article, qui est un article vraiment conceptuel, si on veut, et avec où on peut discuter de ces résultats, il a tout de même attiré l'attention, et en particulier attiré l'attention sur le fait que c'est très bien d'avoir découvert la transition de phase de la perovskite, mais il faut vraiment préciser sa courbe de Clapeyron et aussi étudier comment changeraient les choses si vous avez des variations chimiques, donc en particulier si vous rajoutez ces éléments donc mineurs, le fer et l'aluminium, dans une composition principalement avec du magnésium. Donc voilà, je vais arrêter ici et donc je vous laisse rêver sur cette question. Voilà. Merci.